Je vous souhaite la bienvenue, chers auditeurs de Radio Grand Ciel, dans notre émission consacrée à l'art, à l'histoire et à l'image en général. Aujourd'hui, nous allons parler musique avec André Bonjour, qui nous fait l'amitié et le plaisir d'être avec nous dans le studio de Chartres. André Bonjour est le président de l'Instrumentarium, qu'il se fera un grand plaisir de vous présenter tout de suite. Bonjour André, bonjour. Vous portez bien votre nom.
Merci. Eh bien, écoutez, raconter l'instrumentarium de Chartres, c'est comprendre à la fois les relations des élèves avec le monument, la cathédrale, et à la fois comprendre en quoi ce monument peut devenir important pour ces jeunes élèves. Vous savez, pour les élèves, la cathédrale, c'est grand, c'est beau, c'est compliqué, et parfois, il fait froid. La cathédrale, elle, est muette à qui ne sait ni la lire, ni l'entendre. Il s'agit bien de mettre en relation des vivants, jeunes et en formation, avec la pierre et le verre d'un patrimoine chargé d'histoire. Le travail de l'enseignant est là, mettre en relation, faire connaissance, et pour moi, une entrée imposée, la musique. J'ai choisi une entrée musicale symbolique. D'abord, c'est un des tout premiers exemples de polyphonie savante attribué à Sigon, chantre et disciple de Fulbert de Chartres au début du XIe siècle. Ensuite, c'est marqué qu'au Moyen-Âge, le texte est le matériau essentiel de la liturgie. La musique est autant la musicalité de la langue, le latin par exemple, que les notes et la rythmique de la mélodie. Enfin, c'est un organum à deux parties en deschamps. Le terme deschamps, discantus, est à l'origine synonyme de organum et sert à désigner un chant polyphonique à plusieurs voix. C'est à partir du XIIe siècle, période de construction du portail royal de la cathédrale, que l'organum deviendra une composition dans laquelle on entend une première voix en longue note tenue et une deuxième en note plus rapide. Le deschamps, lui, désigne une composition polyphonique où les deux ou plusieurs voix avancent à la même vitesse, note contre note. Au début et à la fin, les voix se retrouvent à l'unisson ou à l'octave. L'œuvre est fermée. Dans son déroulement, le chant donne à entendre des voix qui s'éloignent ou qui se rapprochent, à la quinte ou à la quarte. Nous ne sommes déjà plus à l'origine du plein chant qui était monodique, une seule voix, j'y reviendrai. Mais alors, et l'instrumentarium de Chartres dans tout cela? Eh bien, écoutez. Thank you. Dans cette pièce, ici, du manuscrit de Las Huelgas, XIIIe siècle, vous avez entendu le psaltérion en teneur. Et la harpe qui joue, permettez l'expression, par-dessus. Les premières pièces instrumentales seront des redites, des adaptations de pièces chantées. Restons avec le psaltérion et la harpe. Les deux instruments que vous venez d'entendre sont des copies à l'identique de ceux portés par deux vieillards de l'Apocalypse au portail ouest, l'un vers le nord, l'autre vers le sud. Rappelons le texte, l'Apocalypse de Jean, pour comprendre que les 24 vieillards ou anciens ne sont pas des musiciens, ce qui explique pourquoi ils tiennent les instruments un peu n'importe comment et non comme des musiciens. Apocalypse de Jean dans la version de la Tobe, la traduction œcuménique de la Bible. Chapitre 4, verset 4. Autour du trône, 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 anciens siégés, vêtus de blanc, et sur leur tête, des couronnes d'or. Verset 10. Les 24 anciens se prosternaient devant celui qui siège sur le trône. Ils adoraient le vivant. Enfin, chapitre 5, verset 8. Et, quand il eut reçu le livre, les quatre animaux et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or pleines de parfums qui sont les prières des saints. Il faut bien comprendre que les coupes de parfums ne font pas des vieillards des parfumeurs. C'est symboliquement, pour le croyant, la prière qui monte dans le ciel, symbole sans cesse renouvelé pendant les offices avec l'encensoir. L'instrument à cordes est quant à lui le symbole de la louange à Dieu. Pour louer Dieu, on peut en chanter les louanges, comme dans les psaumes, sans pour autant être un chanteur au sens musical du terme. J'ajouterai pour l'anecdote qu'avec les élèves d'aujourd'hui, il faut préciser que louer Dieu, ce n'est pas louer une voiture, même si la pub enchante les mérites. Revenons un instant au chant, au plein chant monodique. Le grégorien avant la polyphonie. Chartres a connu Fulbert et nous disposons de trois réponses. Solem, Justitae, Stirpiesse et Annutum Domini. Faire comprendre aux élèves que le chant est aussi un moment d'enseignement. Le verset de la Bible que l'on ne sait pas lire dans le texte, on va le découvrir et l'apprendre par cœur. Le chantre, la maîtrise, apprennent tous les chants par cœur. Nous sommes dans une pédagogie de la mémoire avec toutes ses faiblesses. En effet, quelle assurance avons-nous aujourd'hui que les partitions que nous reproduisons par milliers d'exemplaires sont bien les descendantes réelles de cette première partition, celle du premier moine ou religieux qui, dans le silence du scriptorium, de la chapelle ou de sa cellule, va noter sur le parchemin la suite mélodique qu'il connaît par cœur. Cette première copie est-elle faite à l'époque du compositeur, Fulbert ou Sigon par exemple, ou plus tard? Une autre question se pose, cette mélodie est-elle une réelle création ou la reprise d'un air connu, maîtrisé par l'ensemble des fidèles? Écoutons un extrait d'un chant religieux très connu, interprété ici par les moines de Solem. Reprenons la musique sans les paroles. Dans la tradition, alors la musique sans les paroles, ça donne. Dans la tradition bourguignonne, c'est aussi cette chanson. J'ai vu le loup, le renard, le lièvre, j'ai vu le loup, le renard chelé. Dans la tradition bretonne, les mêmes notes sur un autre rythme. Dans une autre dynamique, c'est « J'ai vu le loup, le renard et la belette, j'ai vu le loup, le renard danser », ce qui donnera Quelques années plus tard, j'ai vu le loup, le renard et la belette. Tout le monde connaît. La question, c'est qui a copié l'autre? Le moine qui a utilisé un air traditionnel, connu des fidèles pour mieux transmettre le texte religieux, ou les paysans qui ont parlé de la vie en prenant aux religieux, voire en les saint Jean. Mais l'histoire de ce thème musical ne s'arrête pas là. Il deviendra une mélodie copiée et recopiée. Dans le Requiem de Berlioz, dans une très belle chanson de Jacques Brel, « La mort m'attend comme une vieille fille au rendez-vous de la faucille pour mieux cueillir le temps qui passe. » Tout aussi extraordinaire, c'est que non seulement le thème musical mènera une longue vie, mais le texte lui-même a connu un succès jamais démenti, comme chez Mozart ou L'an 1000 de Michel Sardou. Reste pour moi le plus merveilleux, car le plus humain. À l'origine, ce texte est l'invention d'un moine pour se souvenir du thème musical, on peut dire un aide-mémoire ou un pense-bête. Cette invention pour l'histoire de la musique s'appelle une séquence. Alors la difficulté à la radio, c'est que l'on ne peut pas montrer la partition. Je vais donc essayer d'être précis et sobre. Nous allons entendre Solem Justitiae chanté par l'ensemble Venans Fortuna dirigé par Anne-Marie Deschamps. Il y a trois parties. La première est une forme d'introduction et comme le veut la tradition, le répond prend comme titre les premiers mots. La deuxième, précédée d'un astérix sur la partition, commence par Stella Maria et écoutez bien, après Odier Process, vous allez voir et entendre surtout un long mélisme, une longue suite de notes, 26 secondes, sur la même lettre. Cette deuxième partie se terminera par Ad Hortum. Précédé du signe V, commence le verset de la Bible, Cernere divinum lumen gaudete fideles. C'est la troisième partie. Puis, on repart à la deuxième partie, à l'astérisque, que l'on appelle la réclame. Rassurez-vous, je vais vous aider discrètement. L'astérix. Écoutez bien. Le verset de la Bible. Réclame, astérix, on recommence. Qu'est-ce qui va évoluer dans cette musique? Quelle invention va accélérer l'évolution de la musique? Eh bien, vous allez vous-même le découvrir à travers ce deuxième répond, stirpe Jesse, la souche de Jesse. Même construction. Introduction cette fois-ci par une basse. Une deuxième partie avec un long mélisme à partir de Al. Une troisième partie qui commence par une voix de femme, puis le début d'un long mélisme par trois voix de femme, mélisme qui n'est pas écrit, mais inventé, improvisé, à partir de Filius et jusqu'à Ius. Elles enchaîneront par la doxologie, qui est un chant de gloire, marquant que c'est la dernière prière de l'office. Même choix, mon aide sera discrète. Astérix, début de la deuxième partie. Long mélisme sur Al. Fin de la deuxième partie, verset de la Bible. Et à partir de là, il n'y a rien sur la partition, elles inventent. Fin de l'invention. Voilà. Eh bien, la grande nouveauté, c'est cette partie inventée, voire improvisée. Pourquoi ? Les moines et les clercs sont des religieux, certes, mais cela n'interdit pas d'être un artiste, un créateur ou un inventeur. En particulier sur le « A » de « Alléluia », le chantre va peu à peu prolonger le mélisme, créer une mélodie, dans la mélodie, de plus en plus riche, voire complexe. Et comme tous les artistes, comme tous les créateurs, si en face de lui, il a des visages qui lui font comprendre, non pas par applaudissements pendant l'office, mais par la clarté des yeux et le sourire, que ce qu'il fait plaît, eh bien, il va petit à petit continuer, et je dirais même prolonger le plaisir de tout le monde. Sauf qu'il a un problème à la fin. Comment se souvenir de cette improvisation, de cette invention, à ce moment-là? On dit que c'est un moine, Notker dit le bègue, qui aurait eu l'idée d'écrire des paroles pour se souvenir de la musique. Ce qui prouve qu'on était bien d'abord dans le texte et qu'en définitive, au moment où il faut parler de musique, on fait appel au texte, ce qui pour nous aujourd'hui est quelque chose de très difficile. Donc il faut bien comprendre qu'on a une musique, celle de la pièce, par exemple Stirp-Jessé, et à l'intérieur on va avoir une musique que le chantre, le moine, etc. va petit à petit inventer, créer. Et pour s'en souvenir, eh bien, au milieu du texte, j'ai envie de dire officiel, de la prière de départ, on va avoir un autre texte. Eh bien, c'est ça qu'on appelle la séquence. Et cette pratique se développera, ce qui prouve que ça devait beaucoup plaire, et donnera naissance à plusieurs séquences, dont Dies Irae, nous avons entendu, ou Stabat Mater. Vous voyez, l'histoire de l'instrumentarium de Chartres commence aussi par faire découvrir l'histoire de la musique aux élèves. Et c'est pour ça que j'ai tenu absolument à commencer par la voix, parce qu'avec les élèves, dans la classe patrimoine, on commençait en classe, et ne soyez pas surpris, mais quel que soit l'âge des élèves, j'ai toujours commencé avec Solem et Stirp-Jessé. Et le discours que je viens de tenir, c'est la pédagogie que j'ai adoptée avec des élèves, et je promets, ça marche y compris avec des élèves de 6 ans, c'est-à-dire des CP, qui ont la partition, eux, bien sûr, devant eux, et à qui je demande tout simplement de suivre avec le doigt quand ça monte ou quand ça descend. Évidemment, avant, on constate qu'il n'y a que 4 lignes, que les notes ont une forme bizarre, elles sont carrées, que c'est écrit en latin, vous vous rendez compte. Donc, une fois qu'on a fait toutes ces remarques, eh bien, on fait ce que je viens de faire avec vous pour découvrir. Et je peux vous assurer qu'il y a toujours à la fin une surprise, quel que soit l'âge des élèves. Volontairement, une fois que c'est fini, je ne dis rien. Eh bien, il y a toujours eu un long moment de silence après, et c'est toujours moi qui ai brisé le silence. Et donc, je disais, en souriant, à mes collègues de l'école publique et laïque, un petit grégorien chaque matin, c'est bien pour mettre en forme. Et je crois qu'effectivement, ça donne simplement la tonalité, c'est-à-dire que ce chant qui donne effectivement l'envie d'être entendu et d'être entendu tranquillement. Voilà, je voulais absolument commencer par ça parce que c'est par là que j'ai commencé avec les élèves. Alors bien sûr, la cathédrale de Chartres, on en revient à l'instrumentarium de Chartres un peu avant la fin tout de même, présente 307 représentations d'instruments de musique. Je devrais dire présenter. En effet, la dernière restauration de la Vendef a mis à jour 4 roses peintes directement sur le mur, en avant de la grande rose occidentale de la façade. Alors côté sud, la grande rose, il y a un magnifique David avec sa couronne et son sceptre, et il tient une harpe sur ses genoux. Elle a la même forme dite gothique que celle du vieillard sculpté au portail royal. À côté, une rose plus petite, elle présente un musicien qui tient devant lui, posé droit sur ses cuisses, une vielle en 8, assez grande, donc sûrement assez grave, qui joue en tenant l'archet à pleine main, on dit à l'allemande. En face, au nord, on devine une très belle tête et des traces qui laissent imaginer un musicien, j'ai tellement envie que ce soit un musicien, tenant un instrument à archet. Quant à la rose voisine, elle est malheureusement illisible. Donc, à aujourd'hui, ces 310 représentations, sans aucun doute la cathédrale la plus riche dans ce domaine. J'en parlerai bien sûr plus en détail la prochaine fois, seulement pour ajouter avant de conclure que tout le problème qui est posé à l'instrumentarium de Chartres aujourd'hui, c'est comment faire, avec qui faire pour que l'on reproduise ces instruments, mais également qu'on essaie de reproduire le son de ces instruments au Moyen-Âge. Et là, je vais redire ce que je dis aux élèves en souriant. Au Moyen-Âge, ils ont eu un tort. Ils ne nous ont pas laissé de vidéo. Et ça, c'est ennuyeux parce que on ne sait pas trop comment faire. Ce qui fait, et c'est un des côtés passionnants d'ailleurs du projet, on fait appel à des spécialistes, donc des musiciens, des luthiers, des musicologues. Et puis tout le monde n'est pas d'accord et on passe des heures à discuter s'il faut tenir l'archet de cette façon, s'il faut mettre des cordes en boyau, au métal, etc., etc. Mais vous verrez, je vous en parlerai la prochaine fois.
Merci
beaucoup. Pour conclure, cette première rencontre, nous entendrons la vielle piriforme et la vielle en huit, voisine du psaltérien de la harpe au portail royal, accompagnée par une flûte et des naquères représentées dans un vitrail de la chapelle Saint-Pierre. Mille excuses, je vous ai interrompu.
Au contraire, je voulais juste remercier André Beaujour, président de l'Instrumentarium, pour cette excellente introduction dans la matière. Et nous allons poursuivre dans une prochaine émission cet entretien qui est très enrichissant et très intéressant pour tous ceux qui ne connaissent pas encore votre discours. Alors, rappelons à tous ceux parmi nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas encore l'Instrumentarium, même si à Chartres il est très bien connu. Il s'agit d'une association créée par André Beaujour, il y a combien d'années ?
Oh, maintenant ça va faire depuis 1996.
Voilà, et grâce à vous, il y a au moins 19 instruments pour le moment qui ont été reproduits. Donc maintenant, je laisse l'antenne à la musique et je remercie André Beaujour et je lui dis au revoir et à la prochaine fois et à vous aussi, chers auditeurs de Radio Grand Ciel. À très bientôt.
Merci.